Good Morning Business, le grand entretien.
Il est 7h44 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invité, c'est Louis Carvignon. Bonjour, vous êtes le président de Ford en France. On le disait ce matin, ces chiffres des véhicules électriques neufs qui ont augmenté quand même de 48% sur les 4 premiers mois de 2026. Ce sont des chiffres par rapport à la même période 2025. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a changé de monde, ça y est, qu'il y a eu ce signal prix qui a fait changer les Français? Est-ce que c'est un peu ce qu'on attendait depuis des années pour faire décoller le véhicule électrique?
Alors bonjour, tout d'abord, merci de me recevoir. Oui, on a vraiment vu là depuis ces 4 derniers mois une vraie accélération en termes de prise de commande. Parce qu'en plus, chiffre que vous mentionnez, c'est un chiffre d'immatriculation qui est donc la résultante
de commandes
déjà faites en fait. Mais si je regarde ne serait-ce que le mois d'avril par exemple, nous chez Ford, on a 55% de vente de véhicules électriques dans notre mix de véhicules particuliers. Donc il y a réellement un virage qui a été pris. Alors virage qui était déjà assez prononcé sur les entreprises depuis, en réalité, l'été dernier, avec, entre autres, vous savez, en mars, il y a eu cette nouvelle règle sur les avantages en nature qui incite très fortement quand même à prendre des véhicules électriques éco-scorés puisqu'ils bénéficient d'un avantage de 70%. Donc ça, déjà, ça avait bougé pas mal sur les entreprises.
Après, il y a eu... c'est bien pour le marché de l'occasion après, hein.
Alors, parce que ça serait bien sur le marché de l'occasion. Ça serait bien qu'on reparle du marché de l'occasion, parce qu'il faudra aussi qu'il soit soutenu, celui-là. Mais donc, effectivement, c'est bien sur le marché de l'occasion dans 3-4 ans, donc sur un terme moyen, ça c'est bien. Par contre, au niveau des clients particuliers, là aussi, on a vu une accélération. Et je pense que la crise dans le Golfe actuellement n'a fait qu'accélérer ce phénomène, puisque, je vous le disais, donc mars, avril, plus de 50% des commandes en véhicules électriques. Nous, on a aussi une offre en E85, bioéthanol, avec le litre à moins de 0,80. Là aussi, c'est 30% de mes ventes. Donc, on voit bien clairement que l'électrique, dès lors qu'on commence à parler peut-être plus que d'écologie, de pouvoir d'achat surtout, en fait, ça parle aux Français.
Avec des véhicules, alors on l'a vu là chez vos concurrents, des sorties, pas que chez les Chinois, aussi chez les constructeurs français, de véhicules qui commencent à être sous les 20 000, voire même sous les 15 000 pour certains, avec des autonomies autour des 200 km. Mais vous aussi, vous avez fait émerger ce type de véhicule dans votre gamme?
Alors nous, on a plutôt des batteries plus importantes en réalité. Nos batteries les plus petites vont conférer au véhicule une autonomie de 400 km. Je pense par exemple à notre Puma Jenny, qui est vraiment aujourd'hui notre véhicule d'entrée de gamme en termes de véhicules électriques. On aura dans un futur relativement proche, vous savez qu'on a un partenariat avec Renault.
On va en reparler.
Qui donc nous permettra en 2028 d'avoir deux véhicules qui vont rentrer dans le segment B, qui seront à un prix donc légèrement inférieur.
Et du coup, la Puma, elle est à combien, elle, si votre entrée de gamme?
La Puma, elle est à 30 000 euros.
30 000 euros pour avant le bonus.
Avant le bonus.
Donc ça reste.
Et elle est éco-scorée puisqu'elle est faite en Europe, donc elle a même la surbonification.
Sur tout ce qui est clientèle entreprise, mais ceux qui ont besoin d'utilitaire, là vous voyez une évolution aussi ou pas?
Alors là aussi, ça c'était vraiment un des enjeux parce qu'on était l'année dernière autour de 8-9% du marché des véhicules utilitaires en électrique. Ça a mis du temps à prendre, mais là aussi, dernier mois de l'année et cette année, là, sur les premiers mois, nous, on est autour de 20% de nos commandes en véhicules électriques. Donc, même sur le Transit Custom, qui est notre best-seller, une camionnette,
la camionnette de base,
rue, voilà. On est à plus de 20% d'électrique là-dessus. Et là aussi, les artisans, en fait, se sont rendus compte que ce qui j'imaginais qui était deux freins, l'autonomie, plus avant tout que la recharge, parce que souvent ils peuvent recharger chez eux quand même, c'est facile d'avoir une borne, l'autonomie en fait n'était pas un frein et que le véhicule électrique correspondait à leurs usages.
Mais c'est ça qui va sauver le secteur automobile, c'est-à-dire est-ce que ça va compenser le fait qu'on vend quand même beaucoup moins de véhicules qu'avant le Covid, ou ça ne suffit pas?
Alors ça ne suffit pas, est-ce que ça va sauver le secteur automobile? Écoutez, je pense qu'il faut qu'on se compare aussi à nos voisins européens. On est, nous la France, quand je prends ce qu'on appelle chez nous les Big Five, donc les 5 gros marchés européens automobiles, on est le marché en déclin, alors que les autres marchés prenaient l'Espagne, le marché est absolument en train d'exploser. Donc, il n'est pas encore en train de nous rattraper, mais en tout cas, il est très fort et très soutenu. Le problème, c'est qu'en France, l'automobile est souvent vécu comme, vu par le gouvernement, comme une vache à lait. Donc, on tend à taxer. Et alors, moi qui suis originaire de la Creuse, je vous le dis, à force de traire la vache, à un moment, le lait, il starie. Donc, elle n'en a plus. Donc, il faut arrêter de taxer l'automobile, et il faut considérer surtout le marché automobile comme un écosystème qui a à la fois du véhicule neuf et du véhicule d'occasion, et vous en parliez tout à l'heure, pour que le système fonctionne, il faut qu'on puisse vendre du neuf, mais il faut aussi que l'occasion se revende derrière. Et un dernier mot, peut-être pour faire un comparatif avec 2019, on a perdu à peu près 500 000 véhicules neufs sur une année pleine. 500 000 véhicules neufs, c'est à peu près 3 milliards de TVA. Donc, il faut rebooster, plus ce qui pourrait se passer sur le...
Il faut soutenir le marché dans son ensemble.
Dans son ensemble.
Alors, vous me parlez de vaches qu'il ne faut pas traire jusqu'au bout. Il n'y a pas que l'État qui met des taxes. Il y a aussi le gouvernement américain avec les questions commerciales. La Ford a publié ses résultats donc, pour l'ensemble du monde. Et on voit clairement qu'il y a eu un impact des droits de douane avec une demande de remboursement. Donc, on verra ce que ça donne dans le futur. On voit aussi l'impact du Moyen-Orient sur les entrants. Là, clairement, sur l'aluminium, on voit une hausse des coûts importante. Quel impact ça a aujourd'hui sur Ford?
Alors, quand je regarde nos résultats au premier trimestre, honnêtement, ils étaient bons, puisqu'on a un revenu qui est autour de 46 milliards de dollars, qui est en augmentation par rapport à l'année précédente de 6%. On a surtout, et ça c'est important, l'EBIT, donc la marge, qui elle aussi à 3,5 milliards, est largement au-delà de nos attentes, puisqu'on est à plus de 2 milliards au-delà de nos attentes. Et donc, du coup, ça nous a permis de relever nos prévisions sur l'année. Pour l'instant, de 500 millions de dollars, on était entre 8 et 10, on pense qu'on va être entre 8,5 et 10,5. Pourquoi seulement 500 millions de dollars alors que on a fait 2 milliards de mieux au premier trimestre? Justement parce que, par rapport à ce que vous disiez, le coût de l'aluminium, entre autres, le fait que ça augmente, et d'autres matières également, on voit une augmentation des coûts. Donc, on n'est pas certain qu'on puisse porter cette bonne nouvelle.
Ça vous grignote les marges, parce que vous augmentez pas les prix, en fait.
Ça grignote quand même une partie des marges. On a gagné un peu en valeur, mais on a également eu parallèlement une augmentation des coûts.
Sur les histoires de remboursement avec les droits de douane, il y a une date, enfin, vous faites il y a une demande et on attend, ça fonctionne comment?
Il y a pas une date précise, ils vont pas nous dire un beau jour, tenez, on vous rend un milliard.
Non, mais vous comptez dessus, ça se voit dans les comptes, quoi. On attend un remboursement.
C'est à peu près ça, mais oui, on s'y attend. Alors, faut savoir quand même que, chez tous les constructeurs automobiles, c'est comme ça. On a évidemment, dans notre pays d'origine, un lien, et donc une action de lobbying auprès du gouvernement, un rapport un peu privilégié. Donc, on est à peu près certain que ça sera remboursé.
Ce que vous allez faire avec Renault, ça ressemblera à une R5 en version Ford. C'est quoi exactement ce qu'il y a derrière ce partenariat?
Alors, ce partenariat avec Renault donc commence déjà à prendre forme, on va dire, puisqu'on va avoir deux véhicules qui vont s'inscrire dans le segment B, donc un véhicule autour de 4 mètres, un véhicule autour de 4 mètres 20, qui vont être produits tous les deux à Electric City, donc dans le nord de la France, un à Douai, l'autre à Maubeuge, donc ça sera la première fois qu'on aura une Ford.
On appelle ça Electric City,
oui. Oui, made in France. Et donc, en réalité, donc les ingénieurs de Renault, donc le véhicule va s'appuyer sur la plateforme Ampère, qui a été développée par les ingénieurs de Renault, qui est une plateforme extrêmement compétente et qui est bien positionnée en termes de coûts. Et donc, sur cette plateforme, qui est vraiment le dessous du véhicule, on va dire, nos ingénieurs, ensuite, ont fait tout ce qui est la carrosserie, tout ce qui va être qualité dynamique, connectivité, expérience utilisateur à l'intérieur du véhicule. Donc ça va être Ford et c'est développé par notre centre de design.
Donc c'est la plateforme qui est en commun et après vous bloquez dessus.
Voilà. Donc la plateforme est en commun et ensuite, Renault, donc, les deux usines vont produire pour nous. Et ça, le fait de produire chez l'un ou chez l'autre, ça permet de répondre au problème de surcapacité de production en Europe. Et c'est une façon smart, passez-moi le mot, de pouvoir utiliser les capacités industrielles des constructeurs historiques en Europe.
Dernier point, on a encore des informations de presse ce matin sur le chinois Geely qui rachèterait une partie d'une usine Ford en Espagne pour fabriquer des voitures électriques. Est-ce que vous confirmez ou pas?
Alors, il y a des discussions qui sont en cours, j'en parlais il y a un instant. En fait, vous savez, à un moment donné, quand vous êtes un constructeur historique en Europe, on avait prévu, nous, tous les constructeurs, un marché européen autour de 15 millions de véhicules. Quand le marché européen n'est plus que de 12,7 millions de véhicules, que dans le même temps, il y a quand même une arrivée assez massive de nouveaux concurrents, entre autres de Chine, et qu'on doit être dans cette sorte d'effet ciseau, on doit investir très fortement pour la transition électrique, et dans le même temps, on ne doit pas non plus désinvestir, parce qu'on continue quand même à vendre des véhicules thermiques, donc il faut gérer un peu ce paradoxe. Le fait de trouver des partenaires qui vont venir peut-être prendre une partie d'une usine ou avec lesquels on va s'associer pour produire des véhicules, c'est mieux que fermer des usines.
Donc ça discute.
Ça discute.
Merci beaucoup Louis-Carl Vignon d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.